Donc, bonjour Marie Brassard. On va donc évoquer le spectacle La Noirceur qui vient d'être présenté ici dans le cadre du FTA. On s'était déjà rencontré donc pour Jimmy Créature de rêve à Paris et je trouvais ça intéressant justement qu'on puisse prolonger un petit peu ce qu'on s'était dit à ce moment-là parce qu'il me semble que il y a une certaine logique, une certaine poursuite de Jimmy. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on constate vraiment que tu ne vas pas dans la facilité, que tu ne t'installes pas dans ce qui avait déjà été proposé et qui marche magnifiquement, aussi bien dans les petites salles que dans les grandes salles. Alors, il m'a semblé qu'il y avait toujours ce côté spectacle écrit par une actrice, mais qui se pose ici ouvertement la question de l'écriture. Alors déjà, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le déroulement de ce processus-là d'écriture et de travail qui s'est fait pour La Noirceur.
Ben alors, tout d'abord, j'avais envie d'écrire à l'origine un spectacle de fiction totale où il était question d'un personnage de skinhead et où il était question de la mort, de l'absence, des amitiés perdues. Et le sujet que je voulais privilégier, c'est l'importance, si on veut, d'un interlocuteur dans la vie, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un avec qui on peut parler, ce qui est une chose très rare, même si on peut parler à beaucoup de gens. Je parle vraiment d'un interlocuteur ou de quelqu'un qu'on peut considérer comme un frère ou une sœur d'esprit. Et donc, j'ai commencé à écrire autour de ces thèmes-là. Et évidemment, comme il y avait aussi la présence d'un personnage de skinhead, aussi, je voulais aussi parler de pas nécessairement de ce mouvement-là, mais de l'attitude des sentiments qui génèrent les mouvements de cette nature-là, c'est-à-dire les mouvements de droite, les mouvements où les gens ont une sorte d'urgence tout à coup de se protéger, de protéger leur territoire, de protéger les gens qui sont autour d'eux. Alors j'ai commencé à écrire d'une manière toute conventionnelle, ce que je fais très rarement, et ce que je me rends compte aussi avec le temps que c'est pas ma manière d'écrire vraiment, parce que j'aime bien écrire, comme je l'ai dit déjà, comme une actrice, c'est-à-dire écrire en improvisant. Ce qui s'est produit, c'est pendant la période où je travaillais ce spectacle, il m'est, moi, arrivé quelque chose dans la vie, à l'endroit où j'habitais, parce que bon, j'ai fait le récit de ça dans mon spectacle, c'est-à-dire que j'habite dans un endroit, une ancienne manufacture qui a été récupérée par des artistes depuis une vingtaine d'années, et le bâtiment, donc c'était créé un sorte de centre culturel extrêmement fécond, riche et extrêmement intéressant, un centre culturel naturel en plein centre-ville de Montréal, et comme ça arrive dans toutes les grandes villes du monde en fait, c'est qu'il y a des promoteurs immobiliers qui ont acheté le bâtiment, qui ont chassé les artistes pour construire des espaces, des lofts de luxe pour les gens très riches. Et donc, le fait de vivre ces événements-là, ça m'a repositionné par rapport au théâtre, mais dans le présent aussi, dans ma propre création. C'est ce que tout à coup, je n'ai plus eu envie de faire du théâtre, j'ai plus eu envie de personnifier un personnage de fiction. Et c'était comme une sorte d'urgence pour moi de parler de cette situation-là et ça a pris le dessus sur tout le reste. Et donc, comme je voulais parler de ça, de la proximité des interlocuteurs et tout, et de la communication des esprits à travers ce sujet du pouvoir des promoteurs immobiliers et du pouvoir de l'argent, en fait, j'ai voulu faire quelque chose de très simple et de très, très anti-théâtral, qui est tout à fait à l'inverse de Jimmy, où Jimmy, j'étais complètement travestie, méconnaissable et tout ça. Et là, tout à coup, j'ai eu envie, si on veut, de faire une sorte d'anti-théâtre où je m'adressais directement, presque en tant que moi-même, parce que bon, il y a des éléments de fiction, c'est certain, à l'auditoire. Alors, c'était, comme tu dis, très risqué et très effrayant aussi. Et donc, j'ai continué à écrire un peu de la même manière que je l'ai fait pour Jimmy, c'est-à-dire en improvisant, mais cette fois-ci avec un musicien. Alors, accompagné d'un musicien, parce que je continue aussi dans cette pièce-là, l'exploration du travail sonore, sur le son, que j'ai amorcé dans Jimmy, mais pas de la même manière, ou un peu à certains moments de la même manière, mais je voulais continuer à explorer ça pour faire finalement au bout du compte une sorte de pièce qui serait un peu une pièce musicale. Le spectacle, à mon sens, n'est pas encore terminé. Hein. C'est vraiment une toute première ébauche que j'avais besoin de proposer parce que j'avais besoin de me confronter à un public. Et c'est un spectacle que je vais continuer de travailler en cours d'année.
Donc c'est vrai qu'il y a effectivement, comme dans Jimmy, où tu partais de tes rêves, là on voit bien comment... Tu es parti là de ton aventure vécue avec les déboires de ce loft. Ouais. Donc ça, on y reviendra justement sur le mélange de ces deux, de l'envie d'histoire et puis de la vie qui vient tisser quelque chose. Moi, ce que je voyais déjà, il y avait vraiment un positionnement d'artiste là assez virulent, sur lequel on ne t'attendait pas d'ailleurs, sur cet exode forcé des quartiers en mutation qui paraît... qui passe parfaitement bien parce qu'on s'attache aussi, tu donnes beaucoup d'éléments affectifs à la description de ce lieu de vie, le lieu de voisinage, etc. Et donc on est nous-mêmes en train de s'attacher à ce loft disparu. Et ça, il m'a semblé que ça fonctionnait très très bien en fait. Bon, je ne sais pas s'il y a des réactions là-dessus, sur le... un peu, c'est comme une sorte de cri d'alerte, enfin, ou de positionnement.
Oui, complètement. Un cri d'alerte aussi que je ne suis pas la première à lancer. Je pense que ce n'est pas un discours qui est nécessairement nouveau. Peut-être le contexte dans lequel je le fais est peut-être nouveau, mais c'est-à-dire que je me suis rendu compte, j'ai vécu cela de l'intérieur. Et donc, bon, redonnant l'exemple, ce lieu-là, qui est un lieu qui m'était très cher, qui m'est toujours très cher parce que j'y habite toujours encore. Je vais devoir partir, comme j'ai dit dans le spectacle, je vais devoir partir incessamment. C'est que ce lieu-là a été habité par des artistes de toutes disciplines qui y avaient leur atelier. Il y avait même une galerie d'art contemporain qui s'appelait la Galerie Clark, qui a dû maintenant déménager au nord de la ville. Et tous les artistes de ce bâtiment se sont retrouvés ou à la rue ou obligés de vraiment s'expatrier, soit comme mon ami à New York, d'autres à Paris, ou encore ils sont partis dans des quartiers où personne ne veut habiter, qui sont en retrait complètement. Ils sont tous séparés, alors qu'ils s'étaient créés très naturellement une sorte de centre culturel vraiment unique et très, très particulier et même assez unique au monde. Il n'y en a pas beaucoup des endroits comme ça. Et donc, quand les promoteurs ont voulu... ont fait part de leur projet, les artistes ont alerté les médias. Alors, il y a eu même une exposition d'une artiste française qui s'appelle Anne-Marie Louvet qui a fait une série de documents, d'entrevues, de photographies sur les gens qui habitaient cet endroit. Et donc, les artistes ont essayé de sensibiliser le gouvernement et personne n'a rien fait pour défendre les artistes. Par contre, après, le gouvernement arrive et fait une proposition, c'est-à-dire il y a un autre promoteur immobilier qui est en train d'acheter une grande partie du centre-ville, qui est bon, le quartier qui est l'ancien Red Light de Montréal, qui est un quartier hyper coloré, animé, avec des gens de partout qui vivent là, avec des gens de toutes les classes sociales, de tous âges et tout ça. Et le projet, c'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est qu'on exproprie tout le monde et on va fermer tous ces endroits qui sont très typiques, très colorés, très vivants, quoi, pour construire ce qu'ils appellent une sorte de centre des arts, où on va construire des bâtiments très très modernes et très luxueux, où on va loger certaines compagnies, les mieux nantis c'est certain, ceux qui auront l'argent pour se le payer, et où, des dires même du promoteur immobilier qui a fait une déclaration dans le journal, où il veut faire une sorte de Broadway à Montréal. Et donc, c'est un cri d'alerte, oui, par rapport aussi à la nature même de l'art, et par rapport à la perception qu'on a de l'art. Parce que, bon, dans ce quartier, il va y avoir ce complexe qui va être construit. Alors, il y a des gens, à certains palais de gouvernement ou dans certains organismes qui ont l'impression de faire quelque chose pour les artistes et pour les arts en faisant ça. C'est-à-dire que plutôt que de profiter de ce qui a déjà été fait ou de la proposition que les artistes ont fait eux-mêmes, on n'accepte pas ça. Et on préfère détruire tout et reconstruire tout, et peut-être que c'est très américain, peut-être que c'est très nord-américain ça, mais de reconstruire tout à neuf, alors, des bâtiments bon, qui seront peut-être beaux, mais qui sont sans âme, hors de prix pour la plupart des artistes, que ça n'intéresse pas, hein, ça les intéresse pas, les artistes d'habiter ces lieux-là, certains peut-être, mais bon, ce sera des grosses compagnies de production de cinéma ou des compagnies de production de théâtre, mais qui sont très riches ou que, bon, qui seront intéressés par ces lieux-là. Mais autrement, les gens s'en vont, donc il y a une sorte de vision de l'art qui est que ce doit être propre, contrôlé, dans des cadres prédéterminés et tout ça, alors que chez moi, dans le bâtiment où j'habitais, ça aurait pris peut-être quelques milliers de dollars pour repeindre le couloir et puis réparer l'ascenseur, et tout le monde aurait été heureux. Et ça aurait fait un centre vraiment, vraiment vivant et qui aurait été fait par les artistes. Mais ça, on ne comprend pas ça encore. Et donc, la même chose quand on... Quand on veut effacer un quartier où il y a des snack bars, où il y a des clubs de nuit, où il y a des clubs très un peu ringards, où il y a des vieilles personnes qui se réunissent, ils sont chez elles, ils se réunissent ensemble là, ils vont prendre un verre le soir, ils sont ensemble, ils vont voir leurs amis. Et là, tout ça, on veut effacer ça. Parce que c'est sale, parce que c'est pas orthodoxe, parce que bon, ça a l'air de ça a pas l'air propre, je sais pas. Enfin, on efface tout ça. Alors, c'est pas seulement les artistes, c'est aussi les classes sociales inférieures aussi, et qu'on écarte et qu'on envoie ailleurs. Alors, chez moi, il y a une métaphore que j'utilise dans le spectacle, mais qui est bien réelle. Et c'est-à-dire que moi, j'habitais au 9e étage et j'avais une vue fabuleuse sur la ville de Montréal. Et d'ailleurs, c'est les vues, j'utilise la vidéo, il y a une artiste française, Cécile Babiol, qui a fait la vidéo pour moi, et la majorité des vidéos qui sont montrées pendant le spectacle sont des prises qui ont été faites de ma fenêtre, ou de la fenêtre de mon ami qui était mon voisin. Et donc, les propriétaires nous ont chassés et ont construit un couloir pour permettre aux gens riches de venir voir la vue qu'on peut avoir sur la ville. Et donc, la vue nous a été bouchée. Et donc, maintenant, ils ont un projet, ils ont construit une maquette et ils vendent les lofts. Et plus la vue va être belle, plus ça va coûter cher. Et c'est vraiment une réalité. Alors, les lofts, à l'étage où j'habitais, vont être absolument hors de prix pour ici. C'est vraiment que les gens très, très riches qui vont avoir accès à ça. Alors, tout ce qui est l'accès à la beauté, en fait, va être monnayable. Et ça, moi, je trouve que c'est une tragédie et je ne pouvais pas m'empêcher de avoir le désir de parler de ça.
Ben, ce qu'on entend bien dans le spectacle et là dans ce que tu dis, mais c'est très vite que la noirceur, c'est pas que une zone trouble à l'intérieur de nous, que des obsessions, des choses noires, morbides, etc. Cette noirceur, c'est aussi la vie.
Oui.
La noirceur, c'est justement ces petits quartiers sales, voilà. C'est justement ces tissus relationnel, ces échanges urbains, etc. Et tout ça devient très attachant, effectivement, plus on avance dans le spectacle. Et ce que moi, je voyais très bien dans le spectacle, c'est comment on part donc de cette volonté de raconter une histoire, ça bute, littéralement, tu butes sur le mur, et il y a cette histoire de l'appartement qui revient et qui commence à prendre toute la place, mais qui aussi commence à se fusionner avec l'histoire que tu voulais raconter, l'histoire du skin, etc., qui intervient en résonance, qui intervient en arrière-plan, et puis les deux commencent à se croiser. Et je me suis dit, c'est là que ça, j'ai commencé à trouver ça vraiment intéressant, parce qu'au début, on se dit, bon, c'est l'auteur qui parle de ses déboires d'écriture. Ça, c'est presque classique. En même temps, on part de soi, on parle de sa matière, il y a eu les rêves, maintenant, c'est moi face à l'écriture. Mais par contre, là où ça devient vraiment passionnant, c'est quand on voit que le texte où les séquences commencent à revenir de manière cyclique, ça tourne en rond. On réentend, ben oui, j'habite au 9e étage et je vais partir, oui, mon ami est parti, etc. Et là, on se dit, ah, là, on est vraiment dans la gestation de l'écriture. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant, et il me semble qu'on pourrait revenir là-dessus, c'est justement sur le fait qu'on est vraiment... avec le spectacle La Noirceur, plongé dans le chaos de la création et dans la gestation d'un texte à venir, d'un texte à produire, qu'on visualise vraiment devant nos yeux, au présent quasiment. En fait.
Oui, ben en fait, c'était aussi mon désir et c'est probablement à ça que je vais m'attaquer davantage quand je vais retravailler le spectacle. C'est-à-dire, je voulais aussi, par le son, par la musique, je disais, je veux que ce soit un spectacle musical. Et comme je travaille avec le son, avec les voix transformées et avec le musicien. Ce que je voulais faire, en fait, c'est un peu mettre en scène ce qui se passe dans la tête quand on essaie de créer. Et dans cette sorte de répétition, cette sorte d'obsession, les différents niveaux de pensée aussi, tout à coup qu'on devient quelqu'un d'autre, on a des sortes de voix ou de sons ou de rythmes dans la tête, et c'est un peu ça que je voulais essayer de mettre en scène. C'est comme le chaos qu'il y a dans l'esprit. En fait, quand on se bute à une impossibilité, aux choses qu'on ne peut pas nommer. Parce que je dis, à un moment donné, quand la nuit tombe, les créatures de la nuit émergent. Et c'est des créatures qu'on ne peut pas voir et qui nous terrifient parce qu'elles n'ont pas de forme. Et c'est un peu pour ça aussi, quand on est artiste, qu'on écrit ou qu'on essaie de créer quelque chose, c'est d'essayer de donner une forme à ce qui n'est pas visible et à ce qui est effrayant parce que ça n'est pas visible. Et c'est un peu aussi cette métaphore-là, je l'applique aussi à c'est-à-dire je la vois aussi applicable à par exemple cette attitude des promoteurs immobiliers qui assassinent quelque chose parce que c'est quelque chose qui leur fait peur parce qu'ils sont pas capables de le nommer. Et ça, c'est l'art, en fait. Parce que l'art, c'est quelque chose qui est impossible à nommer, impossible à définir. C'est quelque chose de très mystérieux. Et donc, c'est toute cette réflexion-là sur, en fait, l'existence de l'art ou la place de l'art dans notre société, mais aussi dans notre propre esprit, parce que c'est un peu de ça qu'on a peur quand on est un créateur, c'est l'angoisse de la page blanche, c'est ça aussi.
Et même le chaos de la création rejoint là, et ça on y reviendra plus tard, le chaos du personnage du skin, quelque chose de proche.
Absolument.
On sent qu'il y a un même chamboulement mental qui fait qu'on est en recherche. Mais par contre, je voudrais revenir sur le fait que ce qui est très beau, c'est qu'on voit ça surgir sur le plateau. Et ce qui est très subtil d'ailleurs, le clin d'œil, c'est qu'au début, ça commence comme on aurait pu poursuivre Jamie. C'est-à-dire qu'on a les deux personnages immobiles sur scène, deux interprètes, et on reviendra au deuxième plus tard. Donc immobiles sur scène, chose de très tenue, très simple, très minimale. Les deux face à nous, point. Et les voix qui viennent. Toi, toujours immobile, tu fais toutes les voix. Et là, on a vraiment des gens très différents devant nous, de tous âges, de tous bords, de tout, etc. Et là, on dit, ah, super, et on repart dedans. Ouais. Puis après, paf, on casse ça. Et là, c'est Marie Brassard ou le metteur en scène, acteur, Marie Brassard qui nous parle en tant qu'artiste, mais aussi comme une actrice, donc qui devient quand même un peu un personnage star, mais quand même très tenue. Et qui nous plonge dans sa création. Il m'a semblé là que c'est pas si anti-théâtral que ça. C'est bien sûr on n'est pas un personnage, mais moi ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que on voit vraiment le théâtre se faire devant nos yeux. C'est-à-dire qu'on part à blanc, à vide, et puis on voit soit une proposition, ben là on peut devenir un personnage avec le micro, soit comment doucement le personnage émerge, comment les corps se remplissent, parce que dès que tu redeviens tel personnage, il y a quand même la petite sympa. Et là, on a bien devant les yeux le processus du théâtre. Il m'a semblé que il y avait une réflexion comme ça sur la gestation d'un texte, mais qu'il y avait aussi du théâtre, une réflexion sur le théâtre devant les yeux.
Sur le jeu.
Sur le jeu.
Oui, tout à fait, sur le jeu. Parce que moi, c'est quelque chose que j'interroge beaucoup, je le dis encore, moi j'aborde le théâtre, je ne me considère pas ni comme une auteure, ni comme une metteur en scène, je l'aborde vraiment en tant qu'actrice. Et pour moi, le jeu, c'est un art et pas une utilité. Et je trouve que c'est très inexploré au théâtre. Parce que bon, on explore énormément les formes d'écriture, les formes de mise en scène, et souvent, ce sont ou les metteurs en scène ou les écrivains qui ont une sorte de pouvoir. Et moi, d'une certaine manière, en créant ma propre compagnie, en faisant mes propres spectacles, je leur donne un peu le pouvoir aux acteurs, d'une manière. Pas, bien entendu, je n'irai pas, c'est certain, j'écris mes spectacles quand même, je les mets en scène, mais je le fais vraiment d'un point de vue d'actrice et j'ai envie d'explorer les manières de jeu possibles. Qui sont qui peuvent être très loin du réalisme ou très près du réalisme. Mais en étant très près du réalisme, tout à coup, ça devient un peu surréaliste parce que c'est pas une situation normale. C'est-à-dire, on peut pas. Moi, je suis devant et je parle aux gens, mais c'est pas comme si on était dans un café ou dans un salon en privé.
C'est pas non plus une conférence.
C'est quand même un spectacle. Et donc, moi, ça m'intéresse, ça me fascine beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que quand j'ai présenté La Noirceur Étant consciente que ce spectacle n'était pas prêt, j'étais très angoissée de la manière dont ça serait reçu. Et à ma grande surprise, ça a été reçu avec beaucoup de chaleur. Et ça suscite des conversations, et ça suscite, bien sûr, c'est pas un hit comme Jimmy, mais ça, je m'en attendais aussi, je m'y attendais aussi. C'est autre chose. Qui a, pour moi, il y a une finesse dans ça que j'ai envie de continuer d'explorer, qui m'intrigue énormément. Et j'ai envie d'aller au bout de cette proposition-là, même si c'est pas nécessairement, à prime abord, une proposition, comment dire, à succès. Une proposition qui ferait « Oh, wow, quelle idée!
» Mais on sent que là, il y a quand même tout un des choses qui se lancent dans le compagnonnage, dans les collaborations. Là, il y a eu un premier spectacle assez tenu, Jimmy, avec quelques interventions extérieures. Là, les interventions s'élargissent, il y en a plus. Et, enfin, les interventions extérieures, les collaborations. Et puis, on sent qu'il y a tout un mouvement comme ça qui se lance. Et j'aimerais bien que tu reviennes sur le processus de travail que j'ai trouvé très intéressant, c'est-à-dire que tu as eu l'occasion, si j'ai bien compris, d'avoir une résidence à l'INSEE. Et plutôt que de faire venir des gens auxquels tu avais déjà pensé, tu as joué une espèce de jeu porte ouverte, très étrange. Et voilà, j'aimerais bien qu'on revienne à ça, parce qu'il me semble que là, c'est quand même une manière de commencer un projet. En général, on fait venir des gens à qui on pense vraiment travailler et pas juste on les teste. Et ça, je trouve ça très intéressant.
Oui, c'était très agréable, parce que bon, c'est sûr, après Jimmy aussi, puis même avant, mais des fois, il y a des gens qui m'offrent leur collaboration. Des gens que je ne connais pas nécessairement. Et moi, je suis très intéressée par tout le milieu des arts visuels, de la musique, de la danse. Et donc, j'avais l'été dernier une résidence de 2 semaines à l'usine C. Et comme j'étais complètement toute seule, encore comme je l'étais pour Jimmy, bon, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la différence que je passe 2 semaines à l'usine C toute seule à essayer d'écrire? Ça ne fera pas de différence. En fait, je fais la même chose chez moi. Et donc, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me bousculerait, qui brasserait mes idées un peu. Alors j'ai décidé d'inviter des artistes qui m'intéressaient, dont le travail m'intéressait, à venir pendant une semaine passer une journée chacun avec moi. Alors il y a eu un chorégraphe, il y a eu un vidéaste, il y a eu un programmeur, et il y a eu un musicien qui est Alexander Maxwin. Et donc, moi, je jetais comme ça mes idées sur la table et je passais une journée avec ces gens-là. Et l'entente était très claire au départ, c'était seulement une rencontre, juste pour un peu voir. Alors, les gens le faisaient avec enthousiasme aussi, parce que c'était seulement une journée agréable à passer, à essayer des choses ensemble.
Tu peux surgir des choses plus tard,
éventuellement. Il y a des personnes avec qui, éventuellement, je vais travailler dans le futur. Mais pour ce projet, la journée que j'ai passée avec Alexander Maxwin, qui est un musicien, un compositeur, c'est que bon, il avait vu Jimmy et on avait eu une conversation et je lui avais dit que j'avais envie de continuer le travail sur le son et la voix, mais de manière beaucoup plus sophistiquée. Et donc, il m'a parlé de certains appareils, vous l'avez entendu parler, il est venu passer une journée avec moi. Et ma grande découverte, en fait, ça n'a pas été nécessairement les machines ou le processus qu'il proposait, mais sa capacité à improviser et la communication si facile qui s'est établie entre nous. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment une improvisatrice, j'adore improviser, en fait, j'écris comme ça. Et Alexander est aussi un musicien qui a une grande facilité à improviser. Mais improviser ensemble, ça demande aussi une sorte de combinaison qui est assez rare, assez précieuse. Et ça s'est produit ce jour-là. Et à la fin de la journée, j'ai dit, écoute, j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec toi. Et il était aussi enthousiaste que moi, en fait, parce qu'en une journée, on avait déjà fait plein de choses, mais trop, en fait. On avait une centaine de propositions dans un spectacle. J'en utilise peut-être 10 sur plus de 100 propositions qu'on a trouvées possibles, de combinaisons possibles, d'utilisation de ces appareils-là. Mais bon, je voulais pas non plus faire une démonstration de technologie.
Mais justement, est-ce que tu peux revenir sur cet approfondissement un peu de l'exploration sonore que vous avez faite pour ce spectacle?
Oui. C'est-à-dire que dans Jimmy, c'était quelque chose de très simple. Les machines, je peux les opérer moi-même, c'est des travaux, des processeurs de voix, en fait, qui étaient utilisés dans les années 70. Ils apparaissent très vieux, très faciles à... Et cette fois-ci, on a travaillé avec deux types de processeurs, c'est-à-dire mais beaucoup plus raffinés, des machines beaucoup plus récentes. Alors, il y en a un qui est vraiment un processeur de voix, alors qui c'est une machine qui change les paramètres et la texture de la voix, mais uniquement de la voix. Alors, c'est pas une machine à effet. Alors, ça fait pas d'effet comme d'effet d'écho ou tout ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment... alors, n'importe qui. Et ce qui est fascinant avec ces machines, c'est que le résultat est différent avec chaque personne.
Est-ce qu'on parle de la voix, de l'émission hein?
Complètement. Et donc, les combinaisons et de la machine et de la voix donnent quelque chose d'autre. Et c'est un travail aussi. Parce que l'acteur fait autant que la machine, en fait. Parce qu'on parle pas normalement avec ces machines-là. Et donc, quand on découvre une sorte de personnalité, on peut créer des personnages avec ça.
C'était à peu près aussi la
ce que
proposition
j'ai fait.
De Jimmy.
Exactement. Mmh. Mais bon, les voix qu'on peut obtenir avec ces machines-là sont beaucoup plus fines, beaucoup moins artificielles que celles que j'utilise dans Jimmy. Et on avait aussi un autre appareil qui est, lui, un processeur multi-effet. C'est une machine qui permet de créer des effets sur une voix. C'est-à-dire que je peux, par exemple, parler à l'envers, ou je peux parler et ma voix, on est 10 personnes, ou je peux avoir une conversation entre deux personnages, c'est-à-dire qu'il y a un délai, et si je réussis à être assez habile avec le délai, je peux créer deux personnages qui ont une conversation, par exemple. Ou alors, on peut créer des effets d'écho, des effets de sourd, des effets... Alors, ça change vraiment la texture du son. Et ça peut aussi créer des effets. Alors, c'est les deux machines principales qu'on a utilisées. On a utilisé aussi des machines plus conventionnelles, comme ce qu'on appelle des sampling, mais très peu, parce que je voulais pas qu'on utilise trop ça. Et aussi, bon, des instruments très simples, comme les claviers, les percussions, des trucs comme ça. Et donc, c'est autant pour Alex un travail musical qui est extrêmement intéressant hein, sur les voix, sur les textures sonores, sur comment...
Parce qu'il y a aussi tout un environnement sonore et musical
qui enrobe aussi le spectacle. Parce qu'il y a, je pense qu'il y a un moment de silence dans le spectacle. Le reste du temps, il y a toujours cette présence du son. Pour un acteur, c'est fascinant et c'est très agréable parce que l'acteur avec qui je travaille, il n'avait jamais fait l'expérience de... C'est une expérience assez fantastique parce que bon, on a des moniteurs dans les oreilles qui nous renvoient. Et donc, quand on travaille avec le micro, on ne s'entend plus nous-mêmes. C'est-à-dire, moi, quand je travaille, je n'entends pas du tout ma propre voix. J'entends le résultat. Ouais. Et donc, c'est très, très étrange au départ parce que c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre qui sort de nous, en fait. Mmh. Et ça nous donne un pouvoir ou une sensation de pouvoir qui est extrêmement grisante et extrêmement excitante pour explorer des choses, des formes de jeu, des personnages. Et ce qui est étrange, c'est que quand on trouve à travers une voix ou à travers un effet, quand on invente ou une situation ou un personnage, le corps s'organise en fait assez naturellement et la voix aussi. Et c'est très intéressant quand on entend quelqu'un. Quand on peut avoir les deux, c'est-à-dire entendre le résultat du travail et entendre la voix de la personne.
On l'a si on est au premier rang, par exemple. Oui, il y a toujours ce trou très intéressant où on t'entend, toi, Marie Brassard, voilà. Et en même temps, le résultat.
Oui.
En même temps, ce qui me paraît vraiment très juste dans ce spectacle, c'est combien la voix, là, n'est pas nourrie par une intention psychologique ou n'est pas le résultat d'une intention psychologique. Elle est le résultat d'un processus technologique, mais en même temps, d'une proposition d'un acteur. Et surtout, on sent qu'elle devient l'occasion d'une tension physique. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une modification physique. Que je trouve moi vraiment intéressante.
Ouais, c'est très intéressant aussi quand un artiste travaille avec ça parce qu'effectivement, moi je ne suis pas une adepte. J'ai vu des bonnes pièces psychologiques, mais cette approche du théâtre ne m'intéresse pas trop. C'est-à-dire, le théâtre psychologique, c'est pas quelque chose qui m'excite trop. Je trouve ça trop. Et tout ce discours qu'on entend beaucoup. Dans les milieux du théâtre autour de l'émotion, de l'émotion de l'acteur, de l'émotion de... Moi ça m'ennuie un peu. C'est-à-dire que je trouve que l'émotion, on doit la faire surgir ou la provoquer chez les spectateurs. Mais pour moi, c'est pas être un acteur, c'est pas une sorte de complaisance dans l'émotion. Moi, ça m'intéresse vraiment pas. Moi, je suis plus intéressée par les idées ou par la philosophie ou par la nature de l'art ou la création, tout ça. Et l'émotion, bien sûr, elle est là. Mais elle n'est pas provoquée chez l'acteur, pour moi. C'est-à-dire que j'en ressens des émotions quand je joue, mais je ne joue pas avec ça. Et pour moi, c'est très important dans mon travail d'avoir une sorte justement d'économie d'émotion et de, en fait, je dirais une pudeur aussi, d'une certaine manière.
C'est là que c'est justement qu'on partait à blanc et qu'on voit comment ça se nourrit et que c'est pas des projections, c'est de la réalité.
Et l'émotion, en fait, chez les gens, elle n'est pas provoquée par l'émotion. L'émotion, elle est provoquée par des événements, elle est provoquée par des choses, des changements, par des surprises, par des... Alors, c'est pas l'émotion qui génère l'émotion. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que moi, par exemple, quand je vais en spectacle, si il y a une charge émotive, psychologique trop forte, ça construit un mur entre moi et l'acteur. Ça ferme tout de suite.
Alors, je voudrais revenir justement sur la deuxième présence qui est sur le plateau, puisque là, il y a aussi un approfondissement dans ce sens de Jimmy, puisque maintenant, vous êtes deux sur le plateau. Et là, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'est une présence physique, dansante, bougeante, etc., à qui on refuse la voix, en quelque sorte. Il est ce skin, il pourrait être aussi d'autres personnages, et... il y a un moment comme ça extraordinaire où il crie un peu sa violence, mais son message est comme effacé. Il n'a plus la parole, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'exprimer. Et souvent, j'ai trouvé que vous êtes tous les deux en permanence sur le plateau, et il y a comme ça un jeu d'équilibre qui se fait, vous n'êtes pas complètement dans le même univers. Lui, un peu ta projection, mais en même temps, parfois, vous êtes les deux physiquement sur le plateau, et cette physicalité est importante. Je voudrais revenir sur l'introduction d'un deuxième individu.
D'abord, c'est sûr qu'après avoir fait l'expérience de créer pour moi-même dans un spectacle solo, je pouvais le besoin de travailler avec d'autres personnes, avec d'autres acteurs aussi. Et j'ai pensé à cet acteur qui est aussi un danseur qui s'appelle Guy Trifureau. Et bon, dans l'histoire, en fait. Lui est un être de fiction, alors que moi je suis davantage dans la réalité, mais c'est un être imaginé un peu. C'est-à-dire que dans l'histoire du spectacle, c'est que tout à coup je trouve une photographie dans les ruines d'un loft au 9e étage, et sur la photographie, je vois l'intérieur d'une manufacture de vêtements. Et c'était ce à quoi était destiné le bâtiment avant que les artistes y emménagent. Alors j'ai imaginé ce qui. Une personne qui, avant moi, avait été privée d'un lieu et avant moi, avait été privée de quelqu'un, en fait. Et donc, il y a ce personnage de Skinhead. Et je trouvais que... Bon, au départ, je me suis beaucoup documentée sur les Skinheads. J'ai lu beaucoup sur cet univers-là. J'ai vu beaucoup d'entrevues, même live, soit sur des films ou sur certains sites web où on peut les voir en entrevue. Et ce qui m'a frappé tellement, et ce qui est commun à presque tous, à part ceux qui sont plus vieux, qui les manipulent visiblement, c'est qu'ils n'ont pas les mots pour s'exprimer. Ils n'ont pas... souvent, c'est des gens qui n'ont vraiment pas une grande culture, qui ont peur, qui n'ont pas une grande éducation. Tout ce qui est inconnu ou étranger, les terroristes, ils ont peur, c'est la peur. Et ce qui est très touchant, c'est que quand ils tentent de s'exprimer, ça roule à vide très vite parce qu'ils n'ont pas et l'éducation et le langage, même si sans doute plusieurs d'entre eux sont très intelligents, ils n'ont pas les moyens pour se défendre. Et leur moyen de se défendre, en fait, c'est que tout à coup, ils en trouvent d'autres qui sont comme eux, qui s'habillent comme eux. Alors, ils font des groupes où ils ont les mêmes vêtements et où ils ont la même appartenance, où ils vont... Alors, moi, je trouvais ça intéressant, avec l'utilisation du son, de mettre en scène un skinhead qui, bon, ne ferait pas comme on s'attendrait à ce qu'il fasse. Le discours sur la supériorité de la race blanche, tout ça. Parce que bon, le skinhead dont je parle, il y a plusieurs types de skinhead aussi, parce que je sais qu'il y en a qui vont m'entendre, ils vont faire oui, il y a plusieurs, oui, c'est vrai, je le sais, les skinhead qui sont contre le racisme, il y en a d'autres qui sont gays, il y en a d'autres qui sont nationalistes, et il y a les néo-nazis qui c'est autre chose. Ils ont tous comme ça des écoles et des codes qui c'est extrêmement codifié. C'est comme une sorte de monde parallèle où, où la plupart se détestent entre eux, ils se détestent entre factions. Et il y a une sorte de violence sous-jacente à ça. Et bon, plutôt que d'avoir un personnage qui était là sur scène, bon, qui tenait un discours, un ou l'autre discours, j'ai choisi de le montrer plus dans son essence, c'est-à-dire quelqu'un qui est privé de quelqu'un avec qui il pouvait parler, en l'occurrence dans cette histoire-là, de sa jeune sœur qui est morte. Et qui n'a personne avec qui échanger quelque chose. Et donc, le désespoir et sa violence naît de là, de son incapacité à communiquer et à s'exprimer.
Et ce que je trouvais très beau, c'est que, je vais revenir juste après sur le dispositif, mais tel que c'est mis en espace, on a l'impression que vous êtes les mêmes au fond. C'est-à-dire que vous deux, vous butez sur la même impossibilité de communication. Lui de dire son parcours, de dire ses solitudes, de dire ses pulsions de violence. Toi de dire ton histoire. Toi d'accoucher de ton histoire. Et lui se confronte au vide, puisqu'il est symboliquement en haut d'une terrasse. Toi, tu te confrontes à ton mur. Et je trouvais que c'était comme ça très... très limpide, justement.
Et je me disais, bon, d'une certaine manière, moi, je ne deviendrai pas skinhead parce que je suis chassée d'un bâtiment, visiblement, mais je me disais que le mépris, par exemple, le mépris de ceux qui ont l'argent, le mépris de ceux qui ont le pouvoir, ne peut pas faire autrement que de générer de la violence. Et la violence, elle ne vient pas de la violence des films qu'on voit à la télé, on ne fera pas avaler ça. La violence, elle vient du mépris que les gens subissent à chaque jour et que tout à coup, ils ont, comme ils n'ont pas les mots, comme ils n'ont pas le langage, comme ils n'ont pas de pouvoir parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de statut social reconnu. Donc, leur seul moyen de se défendre, c'est de prendre une arme ou de faire sauter des bombes. Et, je n'entends rien non plus dans le discours, mais je ne parle même pas, on parle beaucoup de ces temps-ci de terrorisme international, mais je parle même à un niveau beaucoup plus petit et local, très, très local. Les gangs, je ne sais pas, en France, par exemple, vous avez les cités, où est-ce qu'il y a ça aussi. Et c'est pas, ça naît de toute cette violence-là, elle naît de qui va entendre, qui va écouter ce que j'ai à dire ou qui va avoir une conversation avec moi. Et s'il n'y a personne, on se sent incroyablement seul.
Alors justement, cette solitude, on la sent bien dans le plateau, puisque c'est un espace vide. En même temps, il y a quand même une structure scénique, un dispositif qui pour moi évoquait aussi bien ce loft en chantier, une sorte de grand mur colonne comme ça sur le côté, qu'une terrasse d'immeuble nord-américain, qu'éventuellement les dessous, les bas-fonds d'un immeuble, le parking, où on a des espèces de blocs qui évoquent du béton qui pourrait être ça, le sous-sol, la terrasse. Et dans ce dispositif-là, et en même temps, ce qu'on voit nettement, c'est qu'il y a, c'est comme en chantier, il y a, autour il y a des graviers, ou il y a, je ne sais plus, des matériaux comme ça de chantier, et c'est posé un peu comme ça, et c'est donc ce loft en cours de reconversion. Et toute la scène est fermée par un grand panneau écran sur lequel donc est projetée une vidéo. J'aimerais bien qu'on on revienne sur cette intervention vidéo qui prolonge comme naturellement la proposition scénographique, puisqu'on est vraiment en haut d'une terrasse très souvent avec ce sniper, je prends avec incendie, mais ce skinhead là qui regarde la ville de haut comme toi tu regardes la ville du 9e étage. Et il se passe quelque chose de particulier avec cette vidéo. Donc voilà, si on pouvait y revenir.
L'utilisation de cette vidéo est née d'un hasard, en fait, parce qu'originellement, j'avais pas nécessairement l'intention d'utiliser la vidéo pendant mon spectacle. Et il y a eu un hasard, c'est-à-dire que mon voisin, qui était un grand ami, devait déménager de ce bâtiment. Et chez mon ami, il y avait des fenêtres qui donnaient sur l'est et le nord. Et j'avais cette idée depuis le tout début que je voulais que mon spectacle débute et se termine par « Le soleil se couche sur la ville de Montréal et le soleil se lève sur la ville de Montréal ». Ça, c'était comme les deux pôles que je voulais à mon spectacle. Et donc, j'avais l'intention de tourner des images en ce qu'on appelle en pixiation, c'est-à-dire que c'est tourné avec une caméra, mais à un nombre réduit d'images secondes, ce qui fait que ça accélère le temps, en fait. Et donc, comme je ne pouvais pas le faire moi-même, j'essayais de penser à quelqu'un. Et un jour, je suis arrivée chez mon amie, chez qui habitait une artiste française qui était à Montréal, participer à l'événement Champs Libres. Et c'est une artiste qui s'appelle Cécile Babiol. Et un matin, je suis arrivée comme ça pour le petit déjeuner chez mon amie et j'ai vu que Cécile avait installé une caméra à la fenêtre. Alors, je lui ai demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Mais elle dit « mais je tourne 24 heures. » Alors, j'ai dit « mon Dieu, c'est incroyable. » Parce que je voulais exactement... Alors, je lui ai expliqué quelle était mon idée et j'ai dit « écoute, est-ce que ça te gênerait que j'utilise tes images ?» Elle dit « non, pas du tout. Si elle te plaît, on pourra en parler. » Et petit à petit, on s'est connus, on s'est rencontrés et puis on a fait « ben pourquoi pas ?» élaborer le concept davantage. Et donc, Cécile est venue passer un mois et demi ici. Alors, on est allé à New York ensemble. On a passé du temps à Montréal. Et Cécile a pris des prises de vue de la ville de Montréal, vu la plupart de fenêtres du bâtiment où j'habite et certains autres endroits aussi. Alors, tout à coup, elle a dressé par ses images une sorte de portrait de Montréal le jour et la nuit, où on voit le temps qui passe. Évidemment, c'est la lumière qui bouge parce que les images sont des plans fixes, mais grâce à la lumière, tout à coup, on note un peu tous les visages de Montréal.
On voit tous les flux, comme on en parlait en rencontre.
Oui, c'est ça, les gens qui passent, on voit les lumières, la fumée, les voitures, le temps qui passe, la masse aussi de gens, de voitures.
C'est-à-dire que c'est à la fois ce que toi, tu vois, auteur, en train de nous raconter ton immeuble, mais en même temps, ce qu'a vu ce skin en haut de son immeuble. Et puis moi, j'avais l'impression aussi que d'un coup, ça nous permettait... Nous aussi, une ouverture, nous aussi du rêve. Oui. Certains avaient vu Berlin, Beyrouth, d'autres villes dedans, mais surtout nous aussi, comme une espèce de fenêtre ouverte, ce qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes aussi complètement enfermés dans la gestation de cette histoire qui se cherche. Oui, oui. Comme une respiration. Oui,
parce qu'il y a quelque chose aussi que je voulais faire aussi en même temps sur la ville de Montréal, qui est une ville que j'aime et qui, possiblement, peut-être, sera défigurée par l'argent. Ça, c'est triste. C'est vraiment triste. J'ai beaucoup d'affection pour cette ville. Beaucoup. Et j'y vis depuis très longtemps. Et c'est pas une ville, on peut pas dire que c'est une ville qui est belle architecturalement, bien qu'il y ait des endroits très
beaux.
Mais c'est la vie de Montréal qui me plaît. Cet aspect tout vivant, coloré, de mélange de toutes sortes de gens de toutes sortes d'origines, donc par le féminin, de toutes sortes de c'est très coloré comme ville. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Et évidemment, je jouissais d'une sorte de regard sur la ville de privilégié, en fait, puisque de ma fenêtre, je voyais
tout
Montréal.
C'est ce qu'on voit bien, effectivement, dans le film. Et il me semble que ça rejoint assez bien la proposition sonore qui est de nous manipuler ça. Soit on manipule le son, qui nous fait aussi manipuler le temps par moment, parce que la voix va pouvoir s'emballer ou quoi. Et l'image, c'est pareil. L'image, elle est aussi manipulatrice ou détentrice d'un autre rapport au temps, puisque en quelques minutes, on voit se défiler des heures, on va voir plusieurs journées. Et il me semble que ça aussi, ça participe donc par ce jeu à vue ou à oui, si on pourrait dire, à entendre, de l'illusion et du théâtre, puisque tout ça, ça nous...
Oui, parce que c'est aussi artificiel, cette lumière qui bouge comme ça, c'est très théâtral aussi, c'est très... Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et moi, j'aimais ça aussi, parce que c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu, le passage du temps. Alors qu'en traitant les images de cette manière-là, on voit les choses invisibles. Alors, et ça rejoint l'idée aussi de la noirceur, de ce qu'on ne peut pas voir.
Ça rejoint l'auteur qui passe son temps à observer des choses ou à prendre le temps de questionner une photo, prendre le temps de sonder un mur, des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ouais. Et là, peut-être... Tout ça fonctionne vraiment ensemble, c'est-à-dire le son, l'image, la proposition de l'auteur qui est de dire ben là, on va peut-être s'arrêter sur quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Oui, tout à fait. Ouais. S'arrêter à quelque chose qui nous fait peur aussi, parce qu'on ne le voit pas. Et il y a cette. C'est pas vraiment un adage, je pense que c'est une réalité, c'est qu'on ne voit bien que ce qu'on connaît, hein, on dit ça. On ne voit bien que ce qu'on connaît. Il y a une histoire formidable, mais je ne peux pas donner la référence, je ne me souviens pas où j'avais vu ça. Dans un documentaire, je crois, c'est des scientifiques qui sont allés, qui venaient de Californie, qui sont allés dans une région reculée d'Afrique, où, dans un tout petit village où les gens n'avaient jamais vu une ville. Ça, ils leur ont montré des vidéos tournées dans la ville de Los Angeles, où il y avait des gratte-ciel, où il y avait des voitures, où il y avait des gens, tout ça. Alors ils leur ont montré ce film, et quand le film a été terminé, ils leur ont demandé qu'est-ce que vous avez retenu de ce film-là. Et là, il y a eu un grand silence. Et là, il y a fait la poule. Et là, tout le monde a fait oui, la poule, la poule. Et là, tout le monde se rappelait de la poule, mais en fait, qu'est-ce que c'est la poule? Ils ont repassé le film et ils se sont rendus compte qu'à un moment, la caméra passait dans la cour d'une maison et il y avait effectivement une poule. Et c'est ce qu'ils ont vu, parce que c'est ce qu'ils connaissaient. Et moi, je trouve que c'est une histoire fabuleuse. Et c'est aussi le skinhead qui a peur et qui veut avoir des armes et défendre sa maison et son territoire. Et en anglais, ils disent leur turf, c'est leur territoire. Et donc, c'est parce que ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Ils ont peur de ce qu'ils ne voient pas. Et donc tout devient menaçant, comme les artistes.
Alors, merci beaucoup de nous montrer un peu ce qui nous fait peur et de nous l'apprivoiser et de nous donner le temps justement de rester sur ce qui nous inquiète en fin de compte et sur cette noirceur. Merci.